CIBL 105 Montréal.
CIBL, au cœur de la musique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandra Guélil au micro d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL qui vous parle de droit autrement. En studio avec moi aujourd'hui, il y a les vulgarisateurs et vulgarisatrices juridiques Lionel Nietz et Rebecca Chour. Bonjour à vous deux.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Rebecca, quel est ton sujet aujourd'hui?
Je vais vous partager ma critique de l'essai « Porter plainte » par Léa Clermont-Dion et un petit survol des ressources et recours en lien avec les agressions sexuelles.
Et Lionel, tu nous fais quoi aujourd'hui?
Je vous parle des actualités de la semaine.
Notre invité aujourd'hui est Maître Claveau, bâtonnière du Québec. On discutera ensemble du mois de mars, qui est le mois de la justice, du budget Girard, entre autres, mais aussi du 175e anniversaire du barreau et de bien autre chose. Angle droit, c'est parti. L'Assemblée nationale étudie un projet de loi sur la performance environnementale des bâtiments lyonnais.
Oui, Alexandra, on sait que certains bâtiments sont des passoires thermiques car ils sont très mal isolés. Cette fois, le gouvernement s'attaque aux grands bâtiments, les bâtiments industriels, les bâtiments commerciaux et certains très grands bâtiments qui perdent beaucoup d'énergie. Alors concrètement, le projet de loi veut qu'une cote soit attribuée en fonction de la performance énergétique du bâtiment. Et il veut forcer les propriétaires à faire des travaux de mise à niveau. Alors il faut savoir quand même qu'en France et en Belgique, tous les bâtiments ont une cote énergétique de A à G, même les résidences.
De A à F, hein, non ?
Eh bien, je crois qu'il y a même la cote G dont j'allais vous parler, okay, parce que lors de la cote G, qui est le plus mal coté, les propriétaires ne peuvent plus louer leur logement s'ils ne font pas de travaux, carrément. Eh oui.
D'accord, autant pour moi, Lionel. Seconde nouvelle, à Saint-Jean-sur-Richelieu, un individu a été condamné pour fraude amoureuse. Le montant prouvé de la fraude est de 230 000 dollars, mais on suspecte que le montant réel s'élève à des millions de dollars.
Oui, tout à fait. L'escroc au Québec faisait en fait partie d'un réseau qui opère probablement depuis l'étranger. Mais lui, il n'était que la personne qui ouvrait les comptes au Québec pour percevoir les montants versés aux victimes. Mais revenons peut-être un peu à la base pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la fraude amoureuse. Une personne fait une rencontre sur les réseaux sociaux et ça clique, comme on dit. Au fil des jours, des semaines, parfois des mois, elle tombe amoureuse. Puis, un jour, la personne rencontrée prétend avoir un problème et avoir besoin d'argent. Alors, les prétextes peuvent être multiples, un accident de voiture, un problème de santé, devoir voyager pour aller récupérer un héritage. Mais le problème, c'est que la personne, elle n'est pas ce qu'elle prétend. Et un beau jour, elle va disparaître avec tout l'argent qui a été versé. Il faut savoir que la fraude amoureuse, c'est très fréquent et ça touche tout type de personnes, même celles qui s'y attendent le moins. C'est l'occasion pour nous de rappeler que la fraude, c'est un crime qui peut être puni d'une peine de prison. Donc vous pouvez porter plainte à la police. Et vous pouvez aussi déclarer un cas de fraude amoureuse au Centre anti-fraude du Canada, ou à ce qu'on appelle un CAVAC, un centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui peut vous aiguiller par rapport aux démarches que vous pourriez entreprendre.
D'ailleurs, je rappelle qu'en plus d'être le mois de la justice, le mois de mars est aussi connu pour être le mois de prévention contre la fraude, hein, Lionel. Hein.
Tout à fait, Alexandra, c'est bien de le rappeler.
Dis-moi, y a-t-il des conseils pour éviter de se faire flouer ?
Oui, ben, tout d'abord, méfiez-vous si la personne que vous rencontrez trouve toujours des prétextes. Hein, des prétextes pour ne pas vous rencontrer en personne, des prétextes pour ne pas faire de rencontres en vidéo. Il faut ensuite savoir que les sites de rencontres suppriment régulièrement les faux profils. Alors si une personne que vous rencontrez trouve une manière de vous proposer de passer rapidement d'un site de rencontre à une autre plateforme, comme WhatsApp par exemple, ou Messenger pour continuer la discussion, cela peut être suspect. Et enfin, bien sûr, si une personne que vous rencontrez en ligne vous demande de l'argent, cela doit toujours allumer des signaux, peu importe le prétexte.
Prudence aux auditrices et auditeurs concernant ce sujet. D'autant d'actualité aussi, c'est la saison des impôts. Tu voulais nous aviser que la déduction forfaitaire pour le télétravail ne sera plus possible cette année ?
Oui, tout à fait. Donc, depuis le début de la pandémie, il était possible de réclamer une déduction forfaitaire de 2 $ par jour de télétravail. On mélange souvent une déduction et un crédit d'impôt. Alors, sachez qu'une déduction d'impôt, c'est quand vous déduisez un montant de votre revenu avant de calculer votre impôt. Mmh. Un crédit d'impôt, c'est quand vous déduisez un montant de l'impôt que vous avez à payer une fois qu'il est calculé. Alors, toujours est-il que cette déduction forfaitaire de 2 $ par jour, eh bien, elle ne sera plus possible pour la déclaration de revenus 2023, donc celle que nous avons à produire pour le 30 avril prochain. Ben, il est toujours possible, comme avant la pandémie, par contre, de faire une demande de déduction détaillée pour le télétravail. C'est un peu plus compliqué comme calcul, mais c'est faisable. Il y a des conditions plus strictes à respecter aussi. Et sachez que vous devez obtenir des formulaires de votre employeur. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous renseigner, par exemple, sur le site de l'Agence du Revenu du Canada.
Merci beaucoup, Lionel. Je rappelle que tu es vulgarisateur juridique et notaire chez Éducalois. On te retrouve très bientôt pour d'autres chroniques.
Bien sûr, et bonne journée à tout le monde.
Merci, bonne journée. Moment entrevue de cette semaine, le mois de mars et le mois de la justice. Ce sont 31 jours consacrés à la justice à travers différentes actions de sensibilisation et d'information. Nous profitons de l'occasion pour discuter avec l'avocate qui représente ses pairs et assure l'intégrité de la profession, maître Catherine Claveau. Bonjour.
Bonjour.
Bâtonnière du Québec pour le titre exact, ça va bien ?
Oui, ça va très bien et vous ?
Très bien, merci. Alors, on a vu la semaine passée le budget qui a été déposé par le gouvernement. On constate un sous-financement de la justice, alors des choix budgétaires difficiles. Êtes-vous satisfaite de constater qu'il y a un maintien des enveloppes pour la justice?
Bien, satisfaite, c'est peut-être un trop grand mot. Disons, moins déçue qu'on aurait pu l'être, étant donné que nous avions eu des annonces à l'effet qu'il ne fallait pas avoir beaucoup d'attentes cette année. Je pense que la preuve en était qu'on a vu qu'on nous faisons face à un déficit record de plus de 11 milliards. Donc, évidemment, les sommes allouées pour la justice, il ne fallait pas avoir trop d'attentes. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même eu des sommes qui ont été octroyées au budget justice. Évidemment, ça, on le salue.
Est-ce que vous avez en tête quelques exemples?
Bien, ce qui est le plus concret, puis je pense qu'ils vont intéresser vos auditeurs, c'est vous avez sûrement entendu parler du projet des tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et familiales et conjugales. Jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs palais de justice où il y a eu des projets pilotes. Maintenant, on a accordé un budget de 91,9 millions pour ouvrir à travers le Québec là, ces tribunaux spécialisés-là. Donc, un budget pour ça. Autre budget important, et c'est tiré malheureusement de l'actualité de l'automne, où est-ce qu'il y a eu un individu qui a fait une attaque à l'arme blanche au palais de justice de Longueuil. Mm-hmm. Donc, toute la question de la sécurité des palais de justice a été remise au goût du jour. Alors, le gouvernement a décidé d'octroyer des montants assez importants pour augmenter la sécurité dans les palais de justice avec une priorisation des endroits les plus à risque.
Alors, vous représentez le barreau. Est-ce qu'on peut revenir sur les demandes en ce qui concerne les consultations prébudgétaires?
Bien, de notre côté, il y a des demandes, je vous dirais, qui sont récurrentes depuis les dernières années. Entre autres, il faut augmenter la tarification de l'aide juridique. Donc, les avocats qui acceptent de travailler en faisant payer par l'aide juridique, malheureusement, au moment où on se parle, les tarifs sont si peu intéressants qu'on fait face à une pénurie d'avocats qui acceptent de mandat d'aide juridique. Donc, surtout en région, je vais vous donner un exemple, la Gaspésie. Actuellement, on fait face à une pénurie d'avocats qui acceptent de mandat d'aide juridique. Donc, mettre plus d'argent du côté de l'aide juridique, c'est un dossier qui est encore, qui n'est pas terminé, mais malheureusement, on n'a rien vu dans le budget qui nous pouvait donner espoir qu'on aurait plus de montants. L'accompagnement des Autochtones, la cour itinérante dans le nord de la Côte-Nord, dans le nord de l'Abitibi, c'est vraiment, c'est le tiers-monde. Excusez-moi l'expression, ça n'a pas de bon sens. Les locaux ne sont pas adéquats. Il n'y a pas de ressources pour suffisamment accompagner les Autochtones. Les délais sont faramineux pour les audiences. Il y a beaucoup de remises pour différentes raisons. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent à mettre dans ce secteur-là. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'injection directe dans la justice par rapport aux Autochtones. Ce sont deux grands exemples que je vous donnerai.
Alors, on se rappelle qu'on est aussi en période dite d'austérité économique. Quelle suite des choses prévoyez-vous à ce sujet-là?
Bien, écoutez, nous, c'est un dossier qui est toujours au goût du jour. On essaie toujours de voir, nous-mêmes, comment on peut aider à améliorer l'accès à la justice malgré que le gouvernement n'a pas trop d'argent. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que nous avons participé activement à la table justice criminelle qui s'est concrètement transformé en un projet de loi qui fait en sorte qu'il y a des mesures en droit criminel qui ont été modifiées pour essayer de que les délais soient plus courts. Et de notre côté, au barreau, on s'est engagé à donner de la formation à nos avocats en droit criminel, les aider aussi à bien comprendre, à plus utiliser les mesures de négociation, de dossier, d'entente de gestion. Il y a des mesures de gestion qu'on entend beaucoup parler en droit civil, mais en droit criminel, ça existe aussi. Donc, il y a moyen de parler couronne, défense avec les juges pour désalléger les rôles. Donc, une façon aussi d'améliorer l'accès à la justice, mais aussi, il y a un impact sur les coûts par rapport à ça.
On continue justement de parler d'accessibilité à la justice. Quels autres dossiers tiennent particulièrement à cœur le barreau à ce sujet-là?
C'est sûr qu'il y a une cliente, je vous dirais, il y a une tranche de la population qui, malheureusement, sont souvent négligées par rapport à l'accès à la justice. Ce sont les gens qui ont revenu moyen. Mm-hmm. Et on le sait, là, les gens maintenant qui ont revenu moyen, ils ont presque peine à arriver après avoir payé l'épicerie, l'hypothèque, l'école et tout ça. Bien, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, quand on a un problème juridique, comment on peut faire pour se faire accompagner par un avocat? Donc, on essaie, on a créé un groupe de travail, on essaie de trouver des solutions pour mieux les accompagner. Ça va de la changement de la tarification par nos membres, modifier le sacro-saint facturation à l'heure, voir si on peut faire des forfaits de plus en plus. On a contribué avec la Chambre des notaires à faire modifier la loi qui empêchait les organismes à but sans lucratif de donner des opinions juridiques et d'accompagner le contribuable jusqu'au tribunal. Donc, avant que la loi soit changée, par exemple, des gens qui travaillaient dans des organismes comme, vous savez, tout ce qui est Mylan, la clinique juridique du Mylan, même les cliniques universitaires, ils étaient limités à donner une information juridique, donc très générale. Maintenant, la loi est changée. S'ils sont évidemment encadrés et supervisés par des avocats, des étudiants et des avocats qui travaillent dans ces organismes-là vont pouvoir donner et accompagner le client plus à même.
D'ailleurs, je mets mon chapeau d'éducalois ici. Je rappelle qu'on a un outil pour les auditeurs et auditrices qui explique les différences entre avis et information juridique. Cette différence n'est pas toujours cernée par tout le monde et par le grand public. Vous pouvez d'ailleurs le consulter sur éducalois.qc.ca. Maître Claveau, on continue avec les réalisations du barreau et ses actions en faveur d'un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens, monsieur, madame, tout le monde. Donc.
Okay. Bien, je voulais poursuivre et c'est vraiment dans le vif du sujet. Je vais vous parler de la nouvelle école du barreau. On est en deuxième année de projet pilote, donc ce projet-là ne sera plus pilote l'année prochaine, ça va être pérenne. Et ça, par rapport à l'accès à la justice, c'est que dans le cursus que nos étudiants qui sont à l'école du barreau vont suivre dorénavant, ils le suivent maintenant, ils doivent faire de la clinique juridique. Donc, c'est la plus grande clinique juridique étudiante au monde. Dans tous les centres de formation, nos étudiants font un apprentissage expérientiel à partir de vrais clients, de vrais problèmes. Donc, à travers le Québec, les gens peuvent aller sur notre site web www.barreau.ca et on va vous diriger à l'école du barreau. Vous pouvez soumettre votre problématique, que l'étudiant va vous rencontrer. Vous avez droit à 2 séances gratuites. Mm-hmm. Et je tiens à dire aussi que c'est bon pour toute la province. Il va y avoir des séances sur Teams aussi. Donc ça, c'est une façon d'améliorer l'accès à la justice. Mais maintenant, on sent qu'on accompagne mieux nos étudiants là, dans l'expérience. Ils se pratiquent plus pour l'expérience par rapport à ça.
Le mois de la justice, justement, c'est aussi le pin que vous portez sur vos vestons que les auditeurs et auditrices ne peuvent pas voir. C'est le 175e anniversaire du barreau cette année. On parle de marathon juridique. C'est quoi exactement cet événement?
Alors, c'est ça, pour souligner le 175e anniversaire, on a vraiment comme principe de base de dire « le barreau, nous sommes là pour vous ». Public, on est là, on vous accompagne depuis 175 ans, puis on voulait que nos actions puis nos réalisations qui mettent en valeur ce 175-là, ce soit justement des actions vers le public. Alors, un marathon juridique, 175 heures au total vont être données gratuitement à travers le Québec. Ça va être des cliniques juridiques, des visites dans des écoles, des kiosques d'information, des gens peuvent venir avoir des opinions juridiques, des formations, donc à travers tout le Québec. Encore une fois, je vous invite à aller sur notre site web www.barreau.qc.ca. Donc, pendant 3 jours, jeudi, vendredi, samedi prochain, vous allez avoir des avocats à votre disposition. Vous avez un petit problème, une petite question, vous venez nous rencontrer. Puis nous, ça nous fait vraiment plaisir à travers la province. Beaucoup de bénévoles, membres du barreau qui vont se promener pour rendre des services et promouvoir, évidemment, notre belle profession.
Est-ce que ce marathon se poursuit à part la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut
continuer? Je sais qu'il y a des jeunes barreaux dont les activités vont se tenir un petit peu plus après ces dates-là. Mais ça donne aussi... il va y avoir ce marathon-là, mais je tiens aussi à dire que nous collaborons avec d'autres organismes qui sont près de nous. Nous sommes partenaires d'Éduquel, évidemment, vous connaissez, mm-hmm. Justice Pro Bono, les centres de justice de proximité, les centres d'accès à l'information juridique, la Fondation du Bureau. Ces organismes-là sont aussi construits pour souvent accompagner les citoyens, soit dans leur éducation, Justice Pro Bono, des causes intéressantes où est-ce que, les citoyens n'ont pas les moyens d'avoir accès à l'avocat, donc on finance ça. Donc, nous autres, c'est sûr qu'au quotidien, on veille à accompagner d'autres organismes qui accompagnent les justiciables qui ont, encore une fois, des problèmes d'accéder à la justice, faute de moyens.
Petite question, quelle est l'importance de cette collaboration entre les organismes
que vous venez de citer? C'est important. C'est d'abord, même je vous dirais qu'on est même... On fait partie des fondateurs de certaines de ces entités-là, comme Justice mm-hmm. Pro Bono, le CAIGE, Éducalon, on est partenaire, évidemment, depuis le début, comme vous le savez. Mm-hmm. Pour nous, vous voyez, l'idée là, de se rapprocher des gens, d'améliorer l'accès à la justice, elle ne date pas de mon bâtonnet, elle date mm-hmm. de mes prédécesseurs, et c'est une idée qui est pérenne, qu'on veut qu'elle soit pérenne, et on trouve ça vraiment important, nous, comme ordre professionnel, dont la mission première est la protection du public, mais aussi... comme nous sommes le barreau, d'aider à faire en sorte que le plus de public possible ait accès à la justice, bien, pour nous, ce partenariat-là, avec ces organismes-là qui ont chacun leur spécificité, est essentiel.
Maître Claveau, parlons un peu de vous, si vous permettez, de votre parcours professionnel. J'ai quand même fait un peu mes devoirs. Est-ce que vous pouvez nous exposer brièvement ce qui vous a mené à choisir la profession d'avocate? Pourquoi ce métier?
Bien, écoutez, moi, comme plusieurs jeunes à l'époque, ça n'était pas écrit nulle part que je serais avocate. Je n'avais pas d'avocat dans ma famille. Ça a vraiment été un coup de cœur au moment où j'ai mis les pieds dans un palais de justice, donc très tard mm-hmm. quand même, là, au cours de mes études. C'est vraiment lors du début de ma pratique que j'ai réalisé la panoplie de choses que je pourrais faire grâce à ce titre-là d'être membre du barreau. Donc, j'ai fait une pratique assez traditionnelle dans des cabinets privés, mais j'ai toujours, comme accessoire à ma pratique professionnelle, il y a toujours été présent l'implication. Mm-hmm. Et beaucoup dans mon ordre et dans des instances parallèles, dont les jeunes barreaux. Ça a commencé aux jeunes barreaux, fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau, bâtonnière de Québec. Donc, je me suis rapprochée tranquillement de l'instance du barreau du Québec, qui est l'organe principal. Et je suis tombée en amour avec l'institution et je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à en revendiquer la plus haute fonction.
Qu'est-ce qui vous drive dans cette profession?
C'est vraiment le sentiment que lorsqu'on justement on représente des gens dans leurs difficultés, on leur donne un espoir, d'abord qu'ils ne sont pas seuls, on va être là pour eux, pour les accompagner, on va trouver ensemble des solutions. C'est pas nécessairement d'aller en procès, des fois c'est d'aller en médiation, de faire en sorte de faire une différence chez l'individu qu'on accompagne. Mmh.
Alors, vous êtes justement la 8e femme à occuper ce poste de bâtonnière dans toute l'histoire du barreau. Et puis, en fait, on est à 175 ans d'histoire quand même. En revanche, depuis 2014, on le sait, les statistiques le prouvent, les avocates sont plus nombreuses que les avocats à être inscrites auprès du barreau. On parle de 55% en 2021. Quel message souhaitez-vous envoyer aux avocates qui arrivent dans la profession?
Le message que je leur donnerais, c'est de croire en elles et de croire en leur potentiel. Elles ont un énorme potentiel et souvent, j'en suis malheureusement le mauvais exemple, on a le syndrome de l'imposteur qui nous habite toujours. On n'ose pas se vanter, on n'ose pas se vendre, alors qu'on a... Et dans les universités, vous savez, le pourcentage est encore plus élevé. La relève est vraiment aux femmes. Il faut aller de l'avant, se dire qu'on est aussi compétente, sinon plus, que les autres, et revendiquer... Sky is the limit. Mm. Tout est à notre portée. Fonçons, travaillons ensemble, soyons solidaires et croyons en nous.
Maître Claveau, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. On se retrouve, j'espère, très bientôt. On aura peut-être une seconde saison d'Angle Droit. Merci
D'accord.
beaucoup.
Merci, au revoir.
Je vais vous écouter. Pardon.
Le prochain sujet est avec Rebecca Schur, ma collègue qui est vulgarisatrice juridique et avocate et aussi traductrice chez Ducalvois. Bonjour Rebecca.
Bonjour Alex.
Alors de quoi tu souhaitais nous parler aujourd'hui?
L'essai porter plainte par Léa Clermont-Dion. Donc Léa Clermont-Dion a décidé après plusieurs années de porter plainte contre un ancien patron qui l'a agressée sexuellement alors qu'elle était mineure. Et elle a choisi de ne pas nommer son agresseur dans son livre, donc je ne vais pas le faire non plus, juste pour garder l'emphase sur son histoire à elle. C'est un récit de son expérience du processus judiciaire criminel. Ça veut dire le processus de porter plainte à la police, d'aller à la cour, de témoigner, tout ça. Et c'est ponctué par des descriptions de son quotidien comme jeune mère et des réflexions sur plein de sujets, notamment des événements connexes comme le mouvement MeToo. Donc, le livre est sorti en 2023, mais j'ai enfin eu le temps de le lire. Mieux vaut tard que jamais.
Tu dois être comme moi. Une panoplie de livres sont actuellement sur ma table de chevet. Dis-moi, Rebecca, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre en tant qu'avocate, en tant que femme? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a interpellée dans ces pages?
Ce qui m'a interpellée le plus, c'est un récit très intime, cette empreinte d'humanité, de vulnérabilité, puisqu'elle a tenu un journal tout au long du processus. Et ce livre en résulte, elle inclut les petits moments doux avec ses enfants. Donc, c'est pour moi, en tant qu'avocate, de voir la personne victime dans toute son humanité, dans tout son ensemble, et d'entendre le récit de comment le processus judiciaire criminel peut être vécu par une personne qui porte plainte. Ça m'aide à comprendre, ça m'aide à me mettre dans le peau de cette personne-là, puisque je travaille sur les projets qui sont à l'attention des personnes victimes d'agressions sexuelles et autres violences sexuelles. Un travail très important, très utile pour moi personnellement. Elle termine avec un extrait du jugement final dans son cas. Donc, encore une fois, comme vulgarisatrice juridique qui essaie de rendre le droit plus accessible, plus simple, je trouvais ça très intéressant en ce qui concerne la démocratisation du droit, de voir son récit personnel et aussi le jugement dans son cas ensemble.
D'autant plus que tout le monde n'a jamais vu à quoi ressemble un jugement aujourd'hui et que ça paraît quelque chose d'inaccessible pour certaines personnes. On va parler aussi des ressources sur le sujet des agressions sexuelles. Dis-moi, pour la personne victime ou pour les proches, quelles sont les ressources?
La première étape, c'est de prendre soin, de guérir physiquement, psychologiquement. Donc, la ligne téléphonique InfoAid violence sexuelle est disponible en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi un clavardage qui est accessible de midi à minuit, 7 jours sur 7. Donc, les heures sont un peu réduites, mais quand même, c'est disponible. Et une intervenante écoute la personne qui demande de l'aide en lien avec les violences sexuelles. Donc, ça pourrait être l'agression sexuelle, ça pourrait être d'autres violences sexuelles. Et l'intervenante réfère la personne victime vers les services qui sont adaptés à ses besoins ou bien une personne qui veut aider une personne victime. Donc, oui, c'est pour les personnes victimes, mais pour leurs proches aussi. Il y a aussi SOS Violence Conjugale qui a une ligne téléphonique disponible 24 sur 24, 7 sur 7. Et leur équipe d'intervention se spécialise dans les situations de violence entre partenaires intimes. Donc, voici un autre choix. Encore une fois, ça peut être pour la personne victime de violence entre partenaires intimes. Ça peut être une personne qui inquiète pour un proche, veut aider un proche. Donc, deux ressources à connaître pour après une agression sexuelle.
Ça, c'est les ressources. Et en matière de recours, quelles sont les options?
Si une personne victime d'agression sexuelle veut aller plus loin, plusieurs options se présentent à elle. Donc, oui, bien sûr, porter plainte à la police, ça, c'est une option. Il y en a d'autres. Par exemple, il y a la médiation. Si la personne victime veut parler à la personne qui l'a agressée dans le cadre d'un processus sécuritaire confidentiel, si une personne a besoin d'argent pour compenser les torts qu'elle a subis, elle peut faire une demande au Fonds gouvernemental indemnisation des personnes victimes d'actes criminels, IVAC, ou elle peut également poursuivre la personne qui a causé ces torts devant un tribunal civil. Et dans tous ces cas-là, il n'est pas nécessaire de porter plainte à la police pour avoir accès à ces autres options. Ce sont les options vraiment distinctes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nuances et critères à connaître, mais il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour aider les personnes victimes d'agressions sexuelles à naviguer ces options. Notre site web a plus d'informations. L'InfoAid violence sexuelle, c'est toujours un bon point de départ. Donc, le message clé aujourd'hui, c'est qu'une personne victime d'agression sexuelle a plusieurs options. Porter plainte à la police en est une, mais il y en a d'autres aussi.
Notre site web, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, educaloi.qc.ca. On rappelle, Rebecca, que l'essai « Porter plainte » de Léa Clermont-Dion a été publié, il me semble, aux éditions Le Cheval Doux et qu'il est encore disponible en librairie, aussi en livre numérique ou encore dans une bibliothèque près de chez vous. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Merci, Alex.
Merci, Rebecca. Et voilà, c'est déjà la fin d'Angle Droit, vous l'avez entendu. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous. Angle Droit, à commercial.educaloi.qc.ca. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette émission d'Angle Droit. Je remercie Geoffrey Pro qui s'occupe de la mise en onde, ainsi que Jason Paré à la réalisation. Ici Alexandra Guélil, et je vous souhaite une très belle journée à l'antenne de CIBL 101.5.
Cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet « Bingo Radio de CIBL ». À dimanche prochain et bonne chance!
Chat d'avance. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulay, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
CIBL 101.5, Montréal.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.